France Info.
Bonjour Greg Zapp.
Bonjour.
Quand on vous voit, on ressent un souffle chaud et percutant, et pour cause, vous êtes l'harmoniciste français le plus réputé et sollicité, franco-polonais ? Polonais ou français d'ailleurs ?
Franco-polonais.
Vous êtes avant tout la preuve qu'on peut faire d'un instrument une voix, tant chacune de vos interprétations ou partitions jouées sont humaines et vivantes. Vous êtes aussi avant tout un artiste libre qui a pour seule passion la musique. Vous jouez aux côtés des plus grands, Jean-Jacques Milteau, Florent Pagny, Francis Cabrel, Maxime Le Forestier, Charles Aznavour ou encore Johnny Hallyday que vous avez accompagné pendant plus de 10 ans. Avec ce dernier, vous avez partagé des moments très forts et la même langue, celle du blues. Aujourd'hui, vous lui rendez hommage à travers 15 titres incontournables revisités, accompagnés par d'autres artistes. Je pense à MC Solar, Thomas Dutronc, encore Fred Chapelier ou Nono Norbert Krief. Et un spectacle rock à vos côtés avec des musiciens d'exception comme les guitaristes Raoul Chichin, Eric Sauvia ou le bassiste Oliver Smith, la batterie de Julien Boyer. Vous gardez quoi du taulier, du patron, de Johnny Hallyday, donc de cette amitié qui a duré plus de 10 ans?
Je garde un souvenir de notre première rencontre parce qu'en fait je ne connaissais pas Johnny avant de le rencontrer. Je connaissais son image dans les médias, j'avais des amis qui me parlaient de lui, de ses concerts, mais c'était une sphère musicale qui était très lointaine de ce que je faisais. Donc c'était un monde à part que je ne connaissais pas. Et au moment où je suis entré dans le studio, j'ai vu Johnny. Il m'a serré la main, il m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a posé cette question, il me dit « Greg, dis-moi, est-ce que tu joues sur les Marine Band ?» Donc j'ai compris. Parce que le Marine Band, c'est un harmonica, c'est un modèle d'harmonica mythique qui est un modèle de blues, qui a fait l'histoire du blues. Et donc, personne ne le connaît, à part les harmonicistes. Et donc, quand Johnny m'a posé cette question, j'ai compris tout de suite que nous avions la même passion et les mêmes racines musicales. Et tout ce qui a suivi, ça vient de cet instant.
La rencontre, elle se fait parce que on vous demande d'enregistrer une maquette. Son entourage lui fait écouter. Et il demande à vous rencontrer, effectivement. Et là, vous arrivez en studio. Ce qui est assez fort, d'ailleurs, c'est que très vite, il vous a donné une vision des capacités que vous pouviez avoir. En tout cas, il vous a demandé de faire le show, d'exister, de trouver votre place au sein de cette formation.
Ah oui, d'ailleurs, j'avais pas une envie particulière d'accompagner d'autres stars, parce que je faisais mes concerts, j'enregistrais mes disques, et donc j'avais une envie de persévérer dans mon art, voilà. Quand j'ai rencontré Johnny, il a posé sa main sur mon épaule, il me dit « Est-ce que tu veux partir en tournée avec nous ?» J'ai dit oui tout de suite, c'était viscéral. Et je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Et je m'en suis rendu compte quand je suis arrivé à Los Angeles, les premières répétitions pour la première tournée, c'était le Tour 66. Donc je ne connaissais pas du tout le monde des grandes tournées. Déjà, aller répéter à Los Angeles pendant 3 ou 4 semaines, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et ensuite, je ne connaissais pas les morceaux de Johnny. Donc, en fait, à chaque fois, je découvrais les titres, je disais, qu'est-ce que je peux faire? Pour moi, c'était de la musique. Et c'est Johnny, quand il venait répéter, il me proposait des titres. Il me disait, tiens, tu pourrais peut-être jouer ici. Notamment Gabriel, je m'en souviens très bien. Il me dit, on va jouer Gabriel. Je dis, c'est quoi Gabriel? Que je ne connais pas. Ah, c'est un blues, c'est en mi, c'est facile. Donc, je prends mon harmonica, comme je le fais toujours, voilà. Et puis, on se lance. Je me lance dans un solo où je mets toutes mes tripes. Et sauf qu'à la fin, Johnny vient me voir, il me dit, tu vas pas rester planté comme un piqué derrière ton micro quand on va faire le show. Et là, je me suis rendu compte qu'il attendait de moi quelque chose de plus. Il attendait que je fasse le show et je lui ai fait une promesse. Je lui ai dit, Johnny, je te promets, je vais faire le show. Sauf que je ne savais pas comment. Et je me souviens, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais ça veut dire quoi, en fait, avec mon harmonica, ça veut dire quoi faire le show? Je veux dire, je vais jouer, qu'est-ce qu'il attend de moi? Et donc, avant le premier spectacle, à la générale, je me suis dit, il attend quelque chose de moi, je vais aller à fond, quitte à être ridicule, je vais tout faire. Donc je me suis dit, je vais danser, je vais courir à travers la scène, je vais aller dans le proscenium au milieu de la foule, voilà, je vais sauter, je vais crier, je vais chanter, puis je vais me mettre carrément par terre, voilà. Et donc j'ai fait tout ça. Et à la fin de ce premier show, Johnny passe en revue tous les musiciens, ma gorge se noue, qu'est-ce qu'il va me dire? Et il me dit, c'est bien, continue comme ça. Et donc, j'ai compris qu'en fait, j'étais sur la bonne voie, il n'y avait rien de ridicule. On pouvait faire tout ce qu'on voulait. Aux côtés de Johnny, ce n'était jamais ridicule. Et donc, j'étais complètement libre.
Ça, c'était sa façon aussi de gérer unique, hein, d'ailleurs, ces musiciens. Ils laissaient libre cours à leur personnalité. Vous avez souvent dit, d'ailleurs, que personne ne pouvait lui faire de l'ombre.
Je pense que ce qui s'est passé, en fait, avec l'harmonica dans le groupe de Johnny, c'est une révolution, hein. Moi qui connais quand même pas mal de groupes d'harmonicistes à travers les siècles, un harmonica dans un concert monumental de rock qui a cette place que Johnny lui a donnée, ça n'existe pas, très simplement. Il y a un groupe américain qui s'appelle Jiggles Band, où il y avait un grand harmoniciste et il y avait un morceau de bravoure à l'harmonica. C'est peut-être ce qui se rapproche le plus de ce qu'on a fait avec Johnny. Mais sinon, c'est absurde, tellement c'est fou. Vous imaginez les gens qui viennent voir les concerts de Johnny, donc c'est des guitares héros. C'est ça l'image de Johnny, c'est les motos, les guitares héros. L'harmonica, c'est le poète-poète, voilà, western peut-être, et le blues, mais pas dans un concert de rock. Et là, on avait l'harmonica qui était au premier plan. Et donc Johnny avait cette intuition, certainement parce qu'il connaissait le blues, et c'est dans le blues que l'harmonica a ce rôle-là de leader. Il a senti qu'avec moi, il pouvait y aller, et donc il m'a poussé. Et c'est vrai que c'est une attitude très rare chez les chanteurs.
Vous avez toujours suscité de l'intérêt par bon nombre de musiciens. Je pense à Jean-Jacques Milteau, quand vous arrivez en France, il a tout de suite cru en vous. Et lui-même, il avait cette conception que vous pouviez trouver, donner une place à l'harmonica, une place majeure.
Alors, c'est grâce à Jean-Jacques Milteau que c'est devenu mon métier, l'harmonica. Parce que quand je suis arrivé en France, donc j'avais mon harmonica, je ne pensais pas une seconde que j'allais devenir musicien. Et en fait, donc, je jouais secrètement en fait, dans ma chambre. À l'époque, c'était encore derrière le mur du Berlin, c'était une période assez sombre pour la Pologne. Et quand je suis arrivé à Paris, j'ai découvert des magasins de musique avec des harmonicas, un truc hallucinant. J'ai découvert des clubs de musique où on pouvait voir de la musique live, du blues, ce qui était incroyable. Donc, liberté hallucinante. J'ai fait la rencontre avec la musique live. Et dans un de ces clubs qui s'appelle Utopia, je rencontre Jean-Jacques Milteau. C'est la première fois que j'ai vu une mallette d'harmonica et j'ai vu, c'était une révolution pour moi de voir un harmoniciste jouer sur scène. Et en fait, Jean-Jacques Milteau, c'est un des rares, en fait, musiciens qui a fait vraiment une carrière avec ce petit instrument. Il n'y a pas de chemin tracé. On ne peut pas aller dans une école de musique et apprendre à jouer de l'harmonica. Il n'y a rien, il faut faire son chemin. Et en plus, il faut imaginer que l'harmonica, c'est l'instrument dont personne n'a besoin. Dans un groupe, on a besoin d'une guitare, basse, batterie, mais l'harmonica, on n'en a jamais, jamais besoin. Comment voulez-vous démarrer une vie de musicien avec un petit jouet comme ça? Ça paraît ridicule. Et Jean-Jacques Milteau m'a montré qu'on pouvait le faire. Il a d'ailleurs popularisé vraiment l'harmonica à travers des méthodes, une histoire qu'il véhiculait, enfin l'histoire de l'instrument. Et on a d'ailleurs écrit ensemble très rapidement une méthode pour l'harmonica diatonique, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et ça m'a donné confiance pour me dire c'est ce que j'aime, donc je vais y aller.
Il y a un vrai destin hein, quand on regarde bien votre parcours, Greg. C'est-à-dire que vous êtes né à Varsovie et vous êtes arrivé en France avec effectivement en poche un cadeau de votre oncle, cette harmonica, et il vous le transmet. Vous avez quoi, 14 ans?
Oui, j'étais ado.
Il vous confie dans l'oreille qu'il faut que vous écoutiez des jazzmen américains. Et il va y avoir effectivement, après cette rencontre avec le jazz et avec le blues aussi, qui va révéler quelque chose en vous. Mais cette harmonica, très vite, vous comprenez qu'il va être le lien avec une forme de liberté.
Ah oui, c'était toujours lié à la liberté pour moi. Quand j'avais 3 ans, en fait, j'ai eu ma première expérience musicale. Donc, en Pologne, à la maternelle, un monsieur et une dame du conservatoire sont venus auditionner les gamins. Et donc, ensuite, mes parents ont reçu une lettre en disant « Votre fils sera pianiste ». Et donc, j'étais enrôlé dans un conservatoire avec des cours de piano. Et je voulais pas du tout ça, c'était horrible. J'ai prié mes parents, j'ai fait 2 ans, je pense, et j'ai prié mes parents d'arrêter. Tout s'est arrêté et c'était la fin de la musique pour moi. Je voyais pas la discipline, ce truc-là, ça m'a pas du tout branché. J'étais pas fait pour la musique. Et quand j'ai reçu mon premier harmonica, le cadeau de mon oncle, j'ai fait comme tout le monde, je l'ai pris, je soufflais dedans. J'ai appris un premier morceau. Et je l'ai vite laissé tomber derrière mon lit, ça ne m'intéressait pas du tout. Et mon oncle, comme vous le disiez, il m'a dit, il a insisté, heureusement, il m'a dit « Mais il faut que tu écoutes ce que font les bluesmen américains avec cet instrument-là. » Et là, je tombe sur un enregistrement, là j'entends ça. C'était une voix, c'était une sonorité impossible. Je ne comprenais pas cet instrument que j'avais entre les mains et le son que j'entendais. Ça m'a touché tellement profondément. J'ai essayé de faire ça et je me suis dit, le gars, il doit tricher parce que moi, je n'y arrive pas. Et donc là, c'était fini. Je me suis mis à à rechercher toutes les musiques où il y avait de l'harmonica et à jouer.
Donc on parle de Little Walter, qui a été vraiment un énorme coup de foudre pour vous. Là, vous effectivement prenez conscience que cette voix-là, c'est vous qui allez la porter. C'est ce qu'on ressent dans l'enregistrement de cet album, toute la musique que j'aime et sur scène, c'est que vous avez réussi à conserver l'énergie live, finalement, et cette âme du blues, que procure le blues d'ailleurs, et la soul music en règle générale. C'était le point d'ancrage, ça, de conserver ce qui correspondait à Johnny, parce qu'il avait ce truc-là en plus.
En fait, la musique, c'est une tradition orale qui se transmet de génération en génération, et ça depuis que nous sommes humains. Là, j'ai vu récemment les grottes de Lascaux, il y avait des murs, quelqu'un a peint des choses, il y avait l'art, ça existait. Déjà avant, il y avait certainement des musiciens à l'époque, des gens qui se rassemblaient et qui écoutaient de la musique à cette époque-là. Et puis ça a été transmis. C'est toujours, en fait, c'est une lignée. Et ce que j'ai vécu avec Johnny, j'ai envie de le transmettre. C'est une manière d'aborder la scène, c'est une manière de faire de la musique. Je me suis toujours senti libre, en fait, avec Johnny. Dès le premier instant, je pense que c'est parce que j'improvisais. Il n'y a rien qui est écrit pour l'harmonica. Je n'avais pas de partition, j'avais rien qui... Voilà, donc j'étais libre d'interpréter, de donner un regard neuf à une chanson que je ne connaissais pas. Ça ne me posait pas de problème, c'était de la musique. Et puis Johnny improvisait. C'est très rare aujourd'hui des shows comme ça, comme on les faisait avec Johnny. Sur scène, il y avait un groupe de musique. Ce n'était pas un show millimétré qui était sur un time code où rien ne pouvait changer et que tout était prévu. Johnny réagissait en fonction du public. C'est ça la plus grande leçon du spectacle que j'ai reçu de lui, c'est que la musique, c'est le partage. On ne peut pas envisager la musique sans envisager les personnes qui écoutent. Et c'est tellement vrai dans un live. On se réunit, c'est un moment qui ne reviendra plus jamais. Et donc la musique va être différente en fonction de l'instant du public. C'est ça que j'ai ressenti. Johnny faisait ça. Quand il sentait que quelque chose se passait dans le public, il était capable de rallonger un solo. Par exemple, c'est arrivé sur Gabriel. Parfois, il me laissait, mais il y a des solos où je fais 7-8 minutes tout seul à l'harmonica parce qu'il considérait que c'était important dans ce moment-là. Il y a d'autres moments, je me souviens, quand on a joué au Royal Albert Hall, c'était un concert où il y a quand même pas mal de fans français qui sont venus. Et les fans français, ils n'envisagent pas un concert de Johnny sans être au premier rang. Et là, ils étaient placés au 10e rang. Quand on est sorti, début du concert, allumer le feu, on est sorti sur scène. Johnny a vu le groupe de fans qui était en pleurs au 10e rang. Il est sorti de scène. C'était complètement improvisé. Il est allé dans le public. Il a créé une émeute. Les gens s'en levaient, ont couru vers la scène, ont bousculé les gardes du corps. Et le concert a commencé. C'était ça, Johnny, quand même. Donc, c'était toujours en symbiose avec le public. Et c'est ça que je voulais transmettre dans l'album. La manière de s'y prendre, c'est comment faire en sorte de garder la spontanéité et le jeu des musiciens, l'instant. Et ben, y a une seule possibilité, c'est de jouer comme dans un concert. Donc en fait, on s'est enfermé dans le studio et on a joué comme dans un concert, c'est-à-dire avec zéro droit à l'erreur. Si on se plantait dans le morceau, on recommençait.
Comment vous avez enregistré alors ? Parce que sa voix, elle était tellement puissante, elle était tellement un personnage des shows.
Ça, vous touchez à quelque chose de très mystérieux. Johnny a eu cette intuition en fait. Il m'a dit une fois, Greg, ce qui est différent avec toi, c'est que tu ne joues pas avec ton harmonica, tu chantes avec ton harmonica. Il y a quelque chose de très étonnant avec cet instrument. C'est le sol qui se joue en respirant. Vous voyez, c'est... J'aspire, je souffle et l'instrument, il joue. Donc, il y a quelque chose de très, effectivement, de très humain, de très intime qui se rapproche à la voix. Et les gens le ressentent comme ça. Et quand on a joué à la Madeleine, donc il y avait le micro de Johnny. Johnny nous écoutait de là-haut. Et il y avait le groupe de Johnny, on jouait. Donc, je jouais de l'harmonica. Et le nombre de personnes qui sont venues me voir après en me disant « Mais on a entendu Johnny. » Et je pense, en fait, on a tellement dans nos cœurs et dans notre mémoire cette voix de Johnny qui a tellement marqué qu'il suffit de donner une impulsion à allumer le feu, on entend. On entend le Johnny chanter « Que je t'aime », on entend la voix. Tout le monde, là, quelque part, c'est gravé dans nos mémoires. Et l'harmonica a cet avantage de laisser la place pour la voix de Johnny, pour qu'il chante dans la tête des gens. Et moi, je l'entends. Quand j'ai enregistré, j'avais la voix de Johnny dans les oreilles. Je ressens la présence, comme s'il était là, comme si, voilà. Et puis, effectivement, je l'entends, mais c'est dans ma mémoire, dans mon imagination. Mais elle est très présente, c'est vrai.
Vous avez vraiment les yeux qui brillent hein, quand vous parlez de lui. c'est toujours aussi dur d'accepter qu'il ne soit plus là physiquement.
Il fallait pas mal de temps de faire le deuil. C'est une rencontre qui marque une vie. Et puis, on était, je ne sais pas, enfin, il s'est passé quelque chose humainement qui fait qu'il y a toujours un manque. Ce qui est génial avec la musique, c'est que bah, ça permet de prolonger, justement de transmettre un sentiment, une histoire, de rebondir sur ce qui s'est passé.
Vous avez 40 harmonicas dans une petite manette qui vous suit partout. Chaque harmonica correspond à une tonalité. C'est assez fou d'ailleurs. On se dit mais c'est pas possible. C'est très beau à regarder. Vous l'avez d'ailleurs là. Si vous voulez aller regarder les images, n'hésitez pas. C'est vrai quand on pense à l'harmonica, Greg, on pense aussi à Ennio Morricone, inévitablement, qui a réussi à incorporer l'harmonica dans des films qui sont devenus cultes. Et l'harmonica est devenu un personnage des films cultes. Donc on pense à Il était une fois dans l'Ouest. Ce sont des choses par lesquelles vous avez démarré l'harmonica ou pas, ça ?
Oh, pas du tout.
Parce que quand on écoute les compositions d'Ennio Morricone, il y a une place laissée à cet instrument de choix avec, évidemment, on pense à Charles Bronson, à Henry Fonda et tout ce qui va avec.
Ça suscite des images, en fait. Enfin, évidemment, l'harmonica, ça, on pense au cinéma, c'est évident. Et je pense que ça stimule l'imaginaire, en fait, quelque part, parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est cet instrument. Et le son est fascinant. Il y a un truc dans le son particulier. Ce qui est rigolo avec Ennio Morricone, donc il a fait ses premiers films, Il était une fois dans l'Ouest, et puis il y en a bah surtout celui-là où il y a trois, mais franchement il y a trois notes d'harmonica et on est parti, on est dans un western. C'est hallucinant, ces trucs-là. Et bah c'est tellement fort qu'il s'est mis à détester l'harmonica. Il a interdit qu'on lui en parle dans les interviews parce que tout le monde lui parlait de l'harmonica. Alors l'harmonica dans vos westerns, tout ça. Donc il a fini par se débarrasser de l'harmonica. Et quand je suis allé le voir en concert à Bercy il y a quelques années, eh ben, il y avait l'homme à l'harmonica qui était joué, mais il n'y avait pas d'harmonica.
Vous gardez quoi de tout ça ? Parce qu'il a changé votre vie, hein, Johnny. Et là, on a le sentiment que cet album, c'est déjà une déclaration d'amour que vous souhaitiez lui faire. Mais on a le sentiment aussi que c'est une façon de lui permettre de continuer à être encore parmi nous, à rester parmi nous.
Et ce que j'ai vu, en fait, avec Johnny, c'est une manière de voir la musique, de la faire. Je sais pas comment vous le dire, mais on utilise beaucoup avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, tout ça, dans la musique en général, depuis des années maintenant, on utilise beaucoup de chirurgie esthétique, si j'ose dire. La musique à la base, c'est une beauté naturelle qui est là et qu'on peut faire au coin du feu, enfin, n'importe où. Vous voyez, je prends mon harmonica, je peux jouer, je peux faire de la musique. Et il y avait ce côté-là avec Johnny, c'était un truc immédiat, chaleureux et qui réunissait les gens. Donc pour moi, la musique, c'est ça. Là, ça s'exprime à travers le répertoire de Johnny.
Il y a 15 titres à l'intérieur de cet album.
Et c'est d'emmener tout ça plus loin. Toute la musique se crée, en fait, dans le contexte d'aujourd'hui, toujours. C'est toujours en relation avec aujourd'hui. Et je pense que la musique que faisait Johnny, d'une part, il nous l'a transmise parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de thèmes, beaucoup de mélodies, de chansons qu'il a lui repris, qui sont beaucoup plus anciennes et qui sont très actuelles aujourd'hui.
Le 8 décembre, vous serez au Casino de Paris. Il y a une tournée. De monter sur scène, évidemment, c'est toujours plein d'émotions parce que quand vous avez démarré avec lui, il y a une autre personne que vous avez rencontrée, c'est le public qui vibre, qui d'ailleurs, à travers vous, a le sentiment de l'entendre encore. Il y a toujours une petite place, vous avez l'impression qu'il est toujours avec vous sur scène quand vous montez sur scène.
Ah bah bien sûr. Quand je monte sur scène, j'ai toujours l'image de Johnny avant de monter sur scène et le moment où il entrait sur scène. C'est-à-dire en fait, il se plaçait à côté de la scène. C'était un monsieur âgé qui était dans ses pensées. Voilà, la tête baissée. Et puis au moment de monter sur scène, il se relevait, il se redressait, il devenait un géant. Il montait sur scène et il faisait 2-3 heures de show. Hallucinant. Et en fait, ce que j'ai compris, moi j'ai toujours aimé le public. Depuis que j'ai fait mes premiers concerts à l'harmonica, j'ai cette envie en fait d'échanger avec le public, donc j'adore ça. Mais je connaissais aussi des moments où voilà, on faisait plusieurs concerts, donc je me disais, bon, bah, ce soir je vais y aller mollo. J'ai déjà connu ça avant de connaître Johnny. Quand j'ai connu Johnny, quand j'ai vu ce qu'il fait, j'ai compris que la scène, c'était sacré. Le public, c'était sacré. Il n'y a pas de petite scène, il n'y a pas de grande scène. C'est le moment, il ne peut rien se passer. On ne peut pas faillir, on doit être là à 200%.
Merci beaucoup Greg Zlap d'être passé dans le monde d'Élodie sur France Info. Hommage à Johnny Hallyday. Donc il y a 15 titres dans cet album. Vous les revisitez complètement. Il y a des artistes qui sont venus vous prêter main forte et vous accompagner. Je pense à MC Solar, Thomas Dutronc. Je vais tous les citer. Et puis il y a effectivement le 8 décembre, le Casino de Paris et cette tournée dans toute la France. Merci beaucoup d'être passé dans le monde d'Élodie sur France Info. Et c'est toute la musique que j'aime, je le précise.